Première option, habitante du quartier et co-réalisatrice du coup, on est un groupe de 5, avec Liévin, notre animateur. C'est comme ça qu'on te présente ?
Ouais, moi je suis l'extraterrestre qui n'était pas venu du quartier. Moi mon boulot c'est de m'occuper de films participatifs sur Bruxelles. C'est un processus d'éducation permanente où on va utiliser le film pour développer une pensée collective et critique sur les enjeux urbains à Bruxelles. Ça s'appelle les ateliers urbains.
Voilà, ce sont donc les ateliers urbains. Et alors Chérine, comment tu es arrivée là ?
À la base, on a vu dans le quartier apparaître des petites affiches rouges, bien visibles de loin, qui annonçaient la préparation d'une petite session nocturne d'images d'archives sur le quartier. Et de dire, voilà, le CVB prépare un film, on vous rencontre ce jour-là, à telle heure, et c'est là où la première fois j'ai entendu parler du fait qu'il y a un film qui se préparait sur le quartier, et plus spécifiquement sur l'impact du chantier Métro 3 sur le quartier Stalingrad.
Donc toi, tu vois cette affiche, et tu dis, ça m'intéresse, je vais à cette rencontre.
Ouais, c'est même une histoire de famille, parce qu'on y a été avec la maman, le papa, toute la banda. Et oui, je me suis dit que c'était l'occasion, une occasion en plus de mieux apprendre ce qui se fait, ce qui se dit, et une occasion tout court de mettre mon grain de sel aussi dans ce qui va se faire.
Donc il y avait une projection de film à ce moment-là ?
Oui, d'images d'archives surtout, du CVB. Donc on voyait la jonction Nord-Midi, une partie de, voilà, de cette partie du centre-ville, mais en mode archive, et c'était aussi le moyen de marquer le coup du fait que ces images d'archives, elles montraient déjà des travaux et des chantiers colossaux. Et on se trouvait à ce moment-là en plein début de chantier aussi chez nous. Donc je me préparais aussi à voir ce que je voyais dans les archives devant ma fenêtre, ou plutôt sous ma fenêtre.
Est-ce que tu peux décrire du coup ce que tu voyais dans les archives et ce que tu vois maintenant sous ta fenêtre ?
Ce que je voyais dans les archives, c'était de grandes idées d'ingénieurs dans les paroles. Et puis, dans les images, c'était des grands chantiers en noir et blanc. Et ce que je vois sous ma fenêtre, ce serait... Ça peut paraître ironique de dire l'apocalypse, mais moi, je le vis vraiment comme ça. Je vois un gros trou béant devant chez moi. Et ce matin, ils ont commencé à 5h30, le chantier. Donc, en plus de voir, parfois, souvent même, j'entends... C'est moins sympa.
Et ça dure depuis combien de temps ?
On est dans la deuxième année, là, maintenant, à peu près, en sachant qu'ils ont pris du retard avec le Covid, et qu'au début du chantier, ils ne creusaient pas encore pour le métro, mais ils s'occupaient de tout ce qui est impétrant, toutes les évacuations d'eau. Donc, ils creusaient beaucoup, ça sentait... C'était nauséabond, ça sentait vraiment très mauvais, mais le chantier Métro 3 n'avait pas encore commencé véritablement dans la rue.
Et là, il a commencé.
Ouais, là, il a commencé. Il y a des pelleteuses, des gros bazars, des machines dont je ne saurais
depuis
prononcer le nom.
2020, c'est ça ? Donc, depuis octobre 2020. Ouais. Donc là, ça fait 13 mois que le sol est ouvert, on va dire.
Et donc, c'est tous les jours ?
Ouais, tous les jours, parfois la nuit aussi. Donc, c'est sympa.
Donc voilà, tu vas à cette rencontre, tu vois ces images d'archives et comment tu te retrouves à faire un film ?
À la base, la première chose que je me suis dite, c'est tiens donc, heureusement qu'il y a des images d'archives pour que je les vois et que maintenant, en tentant, je me rends compte de ce qui s'est passé il y a 20, 30, 40 ans. Et après coup, Liévin et Louise, la productrice aussi, ont un peu expliqué le fait que il y avait cette volonté de faire un film sur le quartier et l'impact du métro. Et là, je me suis vraiment dit que c'était l'occasion ou jamais de, moi aussi, participer à cette mobilisation, moi aussi, laisser une trace, comme j'ai vu ceux qui ont laissé les archives. Et donc, je profitais de ceux qui avaient laissé la trace 20 ans, 30 ans avant. Et dernière chose aussi, c'est le fait que... encore une fois, c'est assez familial. Mon père est assez mobilisé du côté commerçant. Moi, je suis habitante, je suis étudiante. Je voulais aussi montrer ma frustration et voilà, peut-être faire éclore quelque chose de nouveau en moi, c'est-à-dire d'aller à la pêche aux informations et de sortir un film documentaire.
Donc, vous êtes allé à la pêche aux informations. Vous êtes donc 5 habitants du quartier. On peut les citer ?
Oui.
Ah oui, bien sûr. Donc il y a Chérine Layashi là, qui est à côté de moi.
Il est 20.
Il y a Benjamin Delory.
Ah, on t'entend mieux.
Il y a Samira Amouchi et Félicien Dufort et Anas Tico. Attention, c'est un pseudonyme, mais tout le monde le connaît, surtout sur les réseaux sociaux. Anas, c'est un peu le guéluron du quartier qui, derrière beaucoup d'humour et de boutade, en fait, raconte assez bien, finalement, les tensions aussi vécues dans ce microcosme à Bruxelles. Voilà, de Hannesens, de Stalingrad, de Le Monnier. Hein. C'est comme ça, tout un groupe de personnes aussi qui se connaissent et qui voient venir le changement de la ville. Quoi.
Du coup, vous vous rencontrez ou vous connaissiez déjà en tant qu'habitant ?
Il n'y a que Benjamin et Félicien qui se connaissent. Ils ont un petit joker, ils sont colocs. Du coup,
c'est un gros joker. C'est pour ça qu'ils se connaissent, en fait.
Absolument. Sinon, Samira, Anas et moi, on est tous les trois du quartier pile dessus. Anas et Samira sont nés, entre guillemets, dans le quartier. Moi, j'y suis arrivée il y a 9, presque 10 ans. Et donc, on ne se connaissait pas du tout. Samira, je la voyais souvent dans tout ce qui est... En fait, on se voyait de loin dans les séances d'information avec la STIB. On s'entendait, en fait, exprimer notre mécontentement, mais on ne s'était jamais rencontrés à proprement dit. Et depuis, c'est plus qu'une rencontre, c'est une grosse famille.
Et... Alors, à partir de là, vous vous rencontrez et il y a une animation. Comment ça s'est passé, cette construction en fait, de documentaire ? Est-ce que vous aviez déjà fait un... Est-ce que certains de vous avaient déjà fait un documentaire ? Est-ce que pas du tout ? Enfin, voilà.
Personne. On n'a aucune expérience là-dedans. On y a vraiment été sans savoir en fait, ce qui nous attendait. Moi, je pensais que ça allait durer 2-3 mois et que c'était bouclé, quoi. Donc voilà, plus d'un an après. Mais non, aucune expérience. Et je pense que ça a vraiment commencé avec nous tous autour d'une table en se disant, ben, on veut raconter quoi ? Il y a tellement de façons de raconter ce chantier, ce changement de la ville et cet impact du métro 3 sur notre quartier. De se dire, ben, quel angle on veut prendre ? Et après avoir choisi l'angle et donc le fil conducteur... Qui est-ce qu'on va interroger ? Qui est-ce qu'on va faire ? Qui seront les témoins de notre film ? Et à qui on veut aller, pas tirer les oreilles, mais plutôt tirer les vers du nez.
Alors, quel angle vous avez pris collectivement ? Qu'est-ce que vous avez eu envie de raconter ?
Il y a deux gros éléments qui nous tiennent énormément à cœur. C'est le quartier, l'identité et les habitants. Et le deuxième élément, c'est les commerçants. Et donc pour nous, ce métro 3, ce chantier de métro 3, ou plus exactement le chantier d'une station, d'une nouvelle station de métro à Stalingrad, ça a un impact énorme sur ces deux éléments. L'identité de quartier et le fait que, ben, on est voué à disparaître d'une certaine manière. Les plus optimistes diront que certains d'entre nous, je parle commerçants ou habitants, auront les reins solides et pourront tenir autant d'années de chantier, rester sur place et conserver cette identité de quartier. Mais voilà, on n'est pas tous optimistes. Et de l'autre côté, c'est l'impact sur les commerçants, qui est, lui, flagrantissime. On a encore eu... on me racontait dernièrement qu'il y a encore eu une faillite fin de semaine passée. Donc ça, c'était vraiment le gros du nœud, le gros de la tension qu'on a au fond du ventre, là, c'est de se dire... Ben, en plus de l'identité, il y a surtout des familles qui risquent de tout perdre parce qu'ils ont tout investi.
Comment est-ce que vous décririez l'identité de quartier ?
Excuse-moi si je réponds directement sur la question. Benjamin va encore me taper sur les doigts. Par rapport à cet angle qui veut creuser cette identité, cette perte d'identité de quartier, cette vibe, cette ambiance qui est menacée par les faillites, par le manque en fait de jouissance de l'espace public, c'est aussi à ce moment-là, dès qu'on commence à définir l'angle, qu'on recroise Samira. Samira était venue à la soirée d'information, ne s'était pas vraiment inscrite à participer aux ateliers. Et on la recroise, et de nouveau, ce qu'elle nous dit vibre tellement que c'est complètement en phase avec ce qu'on appelle la note d'intention, c'est-à-dire ce que le film entend faire comprendre et ressentir. Et donc on y trouve une sincérité tellement forte qu'on lui dit, écoute, on a besoin de tes paroles, mais pas comme interviewé. On a besoin de tes paroles pour raconter cette histoire. Et des mots aussi simples et aussi forts que Stalingrad, c'est mon foyer. C'est là que mon père a eu toutes ses chances professionnelles dans la vie. C'est là que je me sens bien. C'est là que je retrouve des gens qui me ressemblent et c'est là que j'invite des gens qui me ressemblent pas. Tout dans le témoignage de Samira nous a vraiment hyper touchés et en même temps guidés pour le reste, parce que questionner des chantiers au travers d'aspects de la culture de l'espace public, questionner des difficultés économiques insondables pour les commerçants au travers du rôle socio-économique que ces générations de commerçants issus de la migration ont fait là-bas. Ça se fait pas avec des livres, avec des statistiques ou avec des chiffres. Et ça nous a d'ailleurs aidé, je pense, dans le film qui est du coup un peu plus loin du reportage. Il pourrait être un reportage sur les travaux du métro, mais grâce à Samira et tous les témoins qui ont réussi à nous confier une détresse, en fait, on a pu aller un petit peu plus loin avec ça, quoi.
Et donc l'idée, c'est vraiment de récolter le témoignage, en fait, des personnes qui vivent le quartier.
Qui vivent ou qui le fabriquent, en l'occurrence, parce qu'on a pas mal d'hommes politiques ou de personnes qui travaillent, que ce soit en ingénierie ou en communication par rapport au chantier. Il y a des éléments qu'on a censurés aussi, on peut le dire, mais c'était... Ouais, c'est lourd d'entendre aussi la façon dont ces décideurs ou ces faiseurs parlent de notre quartier et parlent de l'identité. Et pour revenir sur cette question-là, c'est, comme le dit Samira aussi dans le film, c'est un foyer. C'est une identité familière et populaire. Et surtout, c'est une identité qui est liée à l'immigration. Donc en particulier l'immigration marocaine, mais pas que. Avant, c'était d'autres vagues d'immigration qui étaient présentes dans le quartier. Et donc, ça fait partie intégrante de l'identité de Stalingrad.
Et ouais, un des beaux moments, tout au début, une des premières interviews qu'on a placées, c'est avec la sacristine, on va dire, la dame qui s'occupe de l'accueil à la cathédrale orthodoxe qui est à Stalingrad. Donc c'est un culte orthodoxe grec principalement, mais qui regroupe tous des gens du sud-est européen. Et c'était vraiment touchant parce qu'à son contact, on se rend compte qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, le quartier il porte une histoire d'accueil qui remonte à il y a super longtemps. Et ça, c'est particulièrement... on sent l'importance, je trouve, de la matière qu'on touche, quoi. Nous, on savait au CVB que c'était un quartier qui était attachant, qui était coloré, mais en fait, en lui posant des questions au travers du regard, des questionnements des habitants, mais on voit tout ce qu'il peut y avoir derrière.
Et pareil, en questionnement des habitants, c'est vrai que ce n'est qu'une fois dans le film que je me rends compte à quel point Stalingrad, ça représente Bruxelles, dans le sens où chaque quartier de Bruxelles est différent, mais chaque quartier de Bruxelles est cosmopolite et représente les Bruxellois, en fait, tout simplement. Et c'est peut-être un petit spoil, mais il y a un moment dans le film où on entend un décideur politique dire « Après les travaux du métro 3 à Stalingrad, ce quartier sera 100% Bruxelles. » C'est déjà le cas. Et je ne m'en rendais peut-être pas assez compte avant de faire le film. Je me dis « Je suis dans mon quartier, mais non, en fait, je suis dans ma ville. »
Et qu'est-ce que ça veut dire, « sera 100% Bruxelles »
Ça veut dire, là ça devient un gros spoil, mais c'est une façon aussi d'inviter les gens à venir voir le reste de ce qu'ils disent, ces décideurs. Mais ce qu'ils nous ont dit cash, c'est que ce quartier n'est pas assez à leur goût multiculturel et est plus communautaire. Et donc c'est une tare dans leur bouche, c'est mal vu et ça ne devrait pas être le cas d'avoir un quartier multiculturel. Et pour citer ce décideur, là, je fais vraiment du suspense sur la personne que c'est, mais...
Un gros teaser.
Mais oui, il nous a clairement dit que après les travaux, il y aura plus de gens différents qui viendront et c'est ça qui va porter le quartier et qui va faire qu'il va atteindre son full potentiel.
Ouais, ils parlent d'attractivité aussi, hein. Ils parlent de leur modélisation, de rendre un endroit attractif à l'entrée de la ville, de la gare du Midi, vers la Grand Place. Pourtant, on connaît leurs erreurs, hein. Il suffit de regarder à quoi ça ressemble la rue Neuve la nuit et la place Rogier le jour. Bah, c'est pas ce qu'ont dressé les urbanistes historiquement dans les entrées de ville. C'est rarement des réussites, en fait. Donc, même si c'est plus mal foutu, l'entrée de la rue de Flandre, elle est plus vivante, elle permet à des entrepreneurs de s'installer, etc. On n'a pas conçu des duplex de moyenne surface pour installer des entreprises internationales. Et nous, clairement, c'est ce qu'on craint. On a quand même fait un urbanisme comparatif, et ce qui se passe à Stalingrad, c'est que c'est plein de petites cellules, et donc cet effet de souk, et disons-le avec plaisir, c'est la petite boutique indépendante qui a son caractère, sa particularité, et... Voilà, hier on y était encore, mon fils était avec moi, mais il est passé chez le coiffeur, quoi, vite fait, 5 euros. Donc il y a aussi une question d'accessibilité qui est touchante. On sait qu'une des grandes particularités de Bruxelles, c'est qu'elle a un centre-ville populaire, c'est-à-dire avec des habitants qui sont plus pauvres qu'ailleurs dans le pays. Et le nombre de ressources pour ces personnes est vraiment sous pression. Elle est sous pression des prix immobiliers, elle est sous pression des politiques publiques, elle est sous pression de l'internationalisation de la ville. Et donc, ben, bientôt, non, vous ne trouverez plus en fait de la nourriture au centre-ville. Vous devrez aller dans une moyenne surface de ville, donc un Aldi ou un Deleuze qui pompe un peu sur les prix. Et le boulanger, vous n'aurez plus. Le boulanger, vous n'aurez plus, quoi. C'est tout. Et ce message, il est assez bien entendu des commerçants qu'on tire là. Donc ce film, il fait une lecture de la gentrification par un angle un peu original qui est le commerce. C'est-à-dire qu'en chassant le commerce, on chasse le reste. Et nous, ce qu'on a ressenti, c'est qu'on chasse un esprit aussi et le rôle social du commerce. Ce que souvent, on ne voit pas, parce que le commerce, c'est des petits patrons, hein, ce n'est pas des gens pauvres hein, qu'on a vus, c'est des gens qui sont bien accrochés, qui sont bien des entrepreneurs de notre ville, etc. On ne va pas faire, oh, les pauvres petits immigrés qui ont leur petit commerce. Non, ce n'est pas du petit commerce, c'est du vrai commerce qui sert à toute la ville, qui sert à ses visiteurs, etc. Il faut arriver à remettre l'église au milieu du village et poser la question politique. Mais qu'est-ce qu'on fait si on défavorise les entreprises des Bruxellois, en fait? C'est ce qu'on a découvert dans ce qu'ils vivent.
Parce que dans ce que vous sentez, c'est que on souhaite donc dégager en fait ces commerces. Et c'est quoi? C'est pour en mettre d'autres ou pour mettre d'autres formes de choses en fait dans le quartier qui seraient pas des commerces et qui seraient quoi?
C'est un peu des deux. Si c'est pas des commerces, ce serait quoi? Ce serait des éléments. Qui représentent plus, dans la bouche de ces décideurs, qui représentent plus Bruxelles, mais ce sera toujours une activité liée à cette ville touristique, à cette ville internationale, et ce passage de le Thalys...
Marchand de gaufres de Bruxelles.
Ouais, mais du chocolat aussi. On a un des intervenants qui nous dit de la bière, tout simplement. Il n'y en a pas dans le quartier, donc est-ce que c'est ça qu'on veut ramener? Mais il n'y a pas de souci, à 200 mètres, 500 mètres, elle y est. Mais sur la question de chasser... C'est aussi un élément, on se posait la question au début du film. Est-ce que c'est juste dans nos têtes? Est-ce que c'est une peur que nous on a? Ou est-ce qu'elle est partagée par les personnes qu'on va aller interviewer? Et c'est au fur et à mesure des premières interviews où on a le sentiment et le ressenti que c'est un fil conducteur que tout le monde nous dit, tout le monde, j'entends les gens qu'on a interviewés, les commerçants en particulier, tout le monde nous dit on ne veut pas de nous ici. On s'est dit, mince, il faut que ce soit ressenti dans notre film aussi. Et c'est pas le métro qui nous chasse, en l'occurrence. Le métro, il peut nous ramener que des bonnes choses, en particulier pour les commerçants. Venir de Skarbek à Stalingrad en moins d'une dizaine de minutes, c'est tout bénef. Ce qui nous chasse, c'est une nouvelle station à Stalingrad. Et c'est là tout l'enjeu, c'est de se dire qu'il y a Naissance, il y a la gare du Midi, il y a à peu près 1000 mètres entre les deux. Et on nous fout des travaux gigantesques pour une station fantastique et pharaonique au milieu d'un quartier qui marche très bien. Alors, si c'est pas pour semer la zizanie et qu'il marche un peu moins bien ce quartier, on se demande pourquoi.
Oui, parce que derrière les grands actes publics, c'est pas forcément ce qu'ils veulent qui va arriver. Et ce qui peut arriver à un quartier commerçant, tout simplement, c'est aussi que les commerces ne se remplacent pas et que certains restent vides. Et ça, c'est le début d'un échec. Donc, on a questionné Benjamin Wayens, mais aussi quelqu'un qui a travaillé chez Hub Brussels pour apprendre et comprendre quelles sont les dynamiques derrière un quartier commerçant. Et en fait, un quartier comme Stalingrad ou comme la rue de Brabant ou comme la chaussée de Gand, peut-être qu'elles sont mal considérées par les pouvoirs publics parce qu'elles émanent d'entrepreneurs issus de différentes communautés qui ne sont pas la communauté dominante en politique, ni dans l'urbanisme, ni dans l'architecture. On peut le dire, pour Bruxelles, il y a une minorité blanche qui dirige. Autant se poser la question comme ça, je pense. Et malheureusement, leurs objectifs, ils sont teintés d'une espèce de déni de ce qu'apportent les autres, une espèce d'invisibilisation de ce qui existe de ce qui crée de l'emploi, en fait, de ce qui donne des chances, de ce qui permet aussi la prospérité familiale. Souvent, les entrepreneurs ont plusieurs membres de la famille qui jettent leurs moyens dans un commerce qui se met à vendre de l'ameublement ou des choses comme ça. Le nier nous a semblé... C'est en ça, je pense, qu'il y a plusieurs manières de lire le film et que la démarche, elle invite à d'autres lectures. Elle ne donne pas des réponses, hein, notre démarche, à part de dire « Ah ben, c'est bien triste, hein, madame, ce n'est plus comme avant. » Mais il y en a même une qui est sur comment on nous traite dans la considération socio-économique des communautés, quoi. Et là, dans la voix de ce décideur, tu en parles, on l'entend, et c'est pas quelque chose de neuf. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'était en 2013, de la bouche de quelqu'un de l'Institut Émile Van der Velde, donc du think tank du PS, qui disait « Oui, centre-ville, côté Stalingrad, on veut rénover parce que faudrait que ça change de visage. » Moi, ça me choque. Ça m'a choqué.
C'est un processus de gentrification clair, en fait, ou un truc comme on voit dans certaines villes où le touristique a pris de l'ampleur, on chasse en fait les habitants pour, en effet, je sais pas, tu disais Liévin, le marchand de gaufres ou autre, et que finalement ce soit plus des endroits, des quartiers en fait habités, mais visités, avec aussi plus de Airbnb et compagnie, moins de logements en fait accessibles aux habitants. On est déjà dans une ville où l'habitat est très complexe. Et donc, c'est où vont aller ces habitants et surtout, pourquoi en fait ils iraient autre part.
Surtout qu'ils ne veulent pas partir. Ça fait partie, je parle d'Anas et de Samira, ça fait partie intégrante de leur identité. Ils sont, d'une certaine manière, Stalingrad, Anessens, et Anessens, Stalingrad est eux. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Samira aussi, parce qu'elle est véritablement la voix de notre film. Elle est celle qui remet la balle au centre, parce qu'on a tous des visions de la ville différentes ou des envies de parler de choses différentes. Parfois, on va plus parler des aspects de gentrification, parfois plus des aspects urbanistiques, parfois plus de identitaires et sociétaux. Et Samira, elle arrive à nous replacer l'enjeu, en fait. Mais regardez ce qui va se passer pour moi, pour mon père, pour toute la génération d'avant et celle qui va suivre. C'est véritablement une partie de moi qui s'en va et que je vois mourir sous mes yeux. Et c'est ça aussi la détresse que d'autres intervenants expriment, en particulier commerçants, mais aussi la bande de copains d'Anas, qui sont véritablement nés dans le quartier et qui sont impuissants face au fait qu'il est en train... Le quartier, comme ils le connaissent, est en train de disparaître sous leurs yeux.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que la question de la gentrification, nous, on ne l'a jamais posée. Samira, au moment du montage et des voix off, tapait sur le clou en disant « il faut le dire ». Et c'est bien et bien apparu de façon assez centrale dans trois des interviews, sans qu'on ait jamais demandé « connaissez-vous la gentrification ? Que pensez-vous de la gentrification ?» Non, c'est vraiment venu comme ça, chez les copains d'Anas, chez des commerçants qui sont là depuis deux générations. Et puis,
c'est, c'est quoi? C'est plutôt que d'y poser le mot, c'est aussi simplement de voir comment, en fait, elle arrive. Parce que c'est très insidieux aussi, parfois.
Oui, et
mais on le sent.
Comment elle arrive et comment c'est pris. Comment c'est pris chez un commerçant, comme la négation de leur expertise, prôner politiquement qu'il faut remplacer ce qu'eux ont bien fait, c'est pris de différentes façons. Mais moi, ce que je trouvais remarquable, c'est que ce mot qui est vu comme un mot de sociologie et d'un concept, finalement, ben il est très couru. En gros, c'est comme sur la question des discriminations, qui peut le plus identifier les discriminations, si ce n'est la personne discriminée. Dans la question de la gentrification, qui peut le plus l'identifier? Ben, c'est pas des sociologues dans les universités, en fait. C'est bel et bien les gens qui, depuis 20 ans, dans le cas de ce quartier-là, facilement, sentent qu'il faut partir. Il n'y a pratiquement aucun enfant de ce quartier qui peut se relouer ou racheter dans le marché privé du logement de ses parents. Ne reste en fait que les familles qui ont soit du bien, soit un logement social. Et ça, c'est intégré comme... comme vraiment une disparition territoriale. Soit leur territoire disparaît parce qu'on le fait changer, soit eux disparaissent du territoire. Mais beaucoup reviennent. Enfin, beaucoup reviennent pour la journée, quoi, pour le plaisir.
Ce film va être projeté aussi. Il a déjà été ?
Il a déjà été en avant-première dans le quartier. Et pour l'anecdote, il a été projeté au même endroit, dans la même salle, où on a eu les premières séances d'information de la STIB et de l'ancien ministre de la Mobilité, Pascal Smet, les premiers coups de massue, en fait. L'endroit où on s'est vraiment ramassé la claque dans le visage, c'est l'endroit où on l'a projeté pour la première fois. Et on le reprojette dimanche au Palace, à 11h. Et ça me tient vraiment à cœur de parler de ce moment où on a appris la nouvelle. C'est ce qui est le plus intéressant, c'est à quel point il y avait un manque de transparence sur le futur chantier. Et pour la petite histoire, moi j'ai reçu il y a eu un tout de boîte dans le quartier, 2 jours avant, nous annonçant que dans 2 jours, il y a une séance d'information, on ne sait pas encore, mais d'une extrême importance, sur des travaux qui vont durer un peu moins d'une dizaine d'années. Donc c'est dire à quel point on n'est pas considéré. C'est de nous faire un petit post-it 2-3 jours avant, en disant « Tiens donc, il y a un truc qui va se passer et qui vous concerne, et pas qu'un peu. » Et cette séance d'information, elle a été divisée en 2 jours. Premier jour, la séance commerçants, information pour les commerçants. Le deuxième jour, séance habitants. Et il y a une dame, et vraiment, je pense que c'est l'anecdote qui est la plus forte pour moi dans mon esprit de ce avant-travaux. Il y a une dame à la première séance, commerçants, qui pose la question à Pascal Smet, qui lui dit, au numéro 1 de la cible, mais pourquoi est-ce que vous divisez les séances d'infos? Ok, c'est peut-être 2 publics différents, mais c'est le même chantier, et d'une certaine manière, ça sera les mêmes nuisances, les mêmes besoins. Et elle pose la question, elle dit, est-ce que l'objectif, c'est pas de nous diviser? Et maintenant, plus d'un an après, je me rends compte que non seulement cette femme avait totalement raison, que ça soit l'objectif ou pas, ça, je ne suis pas devin, mais elle a totalement raison, ça nous a divisés, commerçants et habitants. On a maintenant 2 imaginaires de ce que doit être la ville qui sont complètement en décalage et qui se clashent. Mais qui plus est, dans ces 2 groupes, ces 2 camps presque, il y a des divisions encore. Donc vraiment, d'un quartier qui était hyper soudé, hyper solidaire, dans lequel on était en train d'insuffler une dynamique de... n'y a pas de fête de voisins à Stalingrad, mais on se faisait des brocantes, on se rencontrait de plus en plus, on était en train de vraiment de renforcer cette dynamique de solidarité.
Un moment où on en a en plus vraiment besoin.
Ouais. Et maintenant, elle est pas juste complètement éteinte. Il y a vraiment des terreaux fertiles pour de la frustration des différents camps, parce que c'est tout con, mais entre ceux qui veulent un piétonnier bis et ceux qui ne veulent pas, entre ceux qui veulent absolument garder des places de parking et ceux qui veulent plus de pistes cyclables, normalement, on pourrait tout concilier. C'est comme ça qu'on va créer la ville ensemble. Mais sur le terrain, en fait, on est de plus en plus divisés et on a aussi l'impression que ce qui était sous couvert de participation citoyenne, sessions où on peut en fait s'exprimer et donner notre avis, mais c'était des endroits où il y a encore plus, ça s'est renforcé cette histoire de camp et cette histoire de est-ce qu'on se sent représenté par ceux qui ont choisi, ceux qui participent à ces réunions de participation citoyenne, ces décisions, etc. Donc vraiment, et encore aujourd'hui, il y a un manque flagrant de transparence et je suis parfois au courant de certaines réunions de l'aménagement futur de Stalingrad par mon voisin de droite. Parfois, c'est mon voisin de gauche qui me le dit. Et parfois, je suis au courant que mon voisin d'en face, il est en train de se faire une petite team pour voilà, pousser ce que lui a envie d'avoir devant chez lui, que ce soit une plaine de jeux ou un petit parc pour les chiens, parce que chacun, en fait, tire la couverture de son côté. C'est triste, mais c'est un peu ce sur quoi ceux qui ont décidé, ça fait vraiment nébuleux et oh, ils nous observent. Mais c'est vraiment ça, ceux qui ont décidé ont réussi leur coup, que ce soit voulu ou pas, mais c'est de dire qu'on se mobilisait, on pouvait être fort contre, mais maintenant on est juste faible parce qu'on n'est plus ensemble.
Donc ce film, il passe le dimanche prochain, on sera
le 21,
ok.
À 11h au Palais, okay. Presque sold out. Donc ouais. Ça va être difficile d'inviter là, mais on nous
mais
a
si,
dit
mais
aussi.
Mais si, venez.
Venez, faites la file, juste pour le plaisir. Sinon, il y a moyen de boire un verre juste à côté à Stalingrad. Non, on va aussi pouvoir passer à l'aventure le 10 décembre dans le cadre du film Cinéma Med. On a eu le plaisir d'être invité par eux. Donc voilà, la Méditerranée remonte jusqu'à Bruxelles. Nous, on a un film sur les quais de Stalingrad.
On vous remercie, Yvan et Chérine.
Ouais. On peut peut-être juste signaler qu'il y a une chaîne YouTube pour les personnes qui ne vont pas voir le film. Et, il y a deux petites étapes de travail de 12 minutes. Une qui raconte la souffrance des commerçants et l'autre qui porte un regard critique sur ce projet de ville de piétonniers qui avance. Donc c'est sur YouTube. La chaîne s'appelle Atelier Urbain au pluriel et vous retrouvez là-dessus bande-annonce, archives, etc.
Super. Ben, merci beaucoup d'être venu ce matin. Et on va faire une courte pause musicale avant de partir dans l'espace. Vous pouvez rester avec nous. On va appeler, c'est ça, notre correspondant. Merci à vous.
On écoute Amanda Magalhães, O Amor Te Dá.